Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, direction l'Italie et un jour où tout a basculé, le 12 décembre 1969, le début des années de plomb.
Au cœur de l'histoire.
Fin de cavale pour l'ex-activiste d'extrême-gauche italien Cesare Battisti.
Oui, condamné à la perpétuité pour 4 meurtres dans les années 70, il a été livré aux autorités italiennes par la Bolivie.
Le 13 janvier 2019, Cesare Battisti, cet activiste d'extrême-gauche, a donc été arrêté en Bolivie. D'un coup, avec son extradition demandée par l'Italie, c'est tout le spectre des années de plomb qui ressort. Que s'est-il passé dans cette période étonnante où extrême droite et extrême gauche n'ont cessé de s'affronter à coups d'explosions, de coups de feu et de meurtres? Près de 12 000 attentats ont ensanglanté l'Italie. Et tout a commencé un jour de décembre 1969. Comment a été provoqué cet enchaînement de violences, cette série de passages à l'acte qui ont transformé la politique en une lutte armée? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et je vous emmène tout de suite au cœur de cette histoire. Milan, 12 décembre 1969. Il est 16h37, un vendredi après-midi, sur la Piazza Fontana, au centre de l'agglomération. C'est une place où parfois, l'été, quelques personnes âgées viennent s'abriter pour continuer leur conversation. D'un côté, on peut apercevoir l'archevêché et à 50 mètres de là, la place de la cathédrale, la Piazza del Duomo. Et puis, de l'autre côté, la Banca dell'Agricoltura. Ce jour-là, Milan compte un grand nombre d'hommes politiques et de responsables locaux qui sont réunis pour une conférence de presse annonçant la création dans la ville d'un institut technologique sous l'égide de l'OCDE. Au même moment, des agriculteurs des environs de Milan se retrouvent dans un immeuble voisin de la Banca Nazionale et de l'Agricultura, dans une salle qui communique avec le hall central. C'est au moment où, après avoir effectué leurs opérations financières, qu'ils discutent de leur contrat. Bref, la vie semble suivre son cours à Milan, cette grande métropole du nord de l'Italie. C'est à ce moment précis, 16h37, que la bombe explose. Écoutez comment le correspondant d'Europe 1 a raconté la scène en 1969.
La déflagration a été ressentie à 8 km de là. 6 kilos de plastique dissimulés sous la table centrale de la banque ont explosé à 4h15 de l'après-midi. La banque devait fermer à 4h, mais c'était vendredi. Beaucoup de Milanais avaient touché le mois double de fin d'année et une centaine de personnes attendaient leur tour à la caisse. Brusquement, un éclair a jailli. Des hommes, des femmes ont été déchiquetés. Tout Milan a entendu la détonation. Déjà dans les grands magasins voisins, la foule courait dans tous les sens. Les automobilistes s'arrêtaient, chargeaient les blessés dans leurs voitures en attendant les ambulances. 14 morts, 75 blessés, dont 10 restent dans un état très grave. Et puis pendant que chacun essayait de reprendre son calme, on apprenait que dans une autre banque, à quelques mètres de là, 10 kilos de plastique venaient d'être découverts. L'explosion, heureusement, ne s'est pas produite.
À l'intérieur de ce qui fut la Banca dell'Agricoltura, un grand silence règne. Le hall a été le théâtre d'un carnage. Il offre un spectacle effroyable. Le mobilier a volé en éclats. Des corps sont encore au sol. Le sang commence à sécher. Au mur, les policiers retrouveront des lambeaux de peau. Au centre de la pièce, des morceaux de sol ont été élevés en barrière, presque dérisoire, afin d'isoler la foule du cœur de l'explosion. Dans les minutes qui suivent, à plusieurs centaines de kilomètres de là, à Rome, une autre série de bombes explose.
C'est pas une bombe, une explosion, un ballon.
Où est-ce qu'elle était, la bombe?
Oui, dans le salon de la banque.
Et il y avait des clients dans la banque?
Oui, oui, beaucoup, 30, 35.
Vous pouvez me dire si la bombe a été placé par des organismes politiques?
Je pense que oui, mais je pense que c'est fasciste.
Et est-ce que vous croyez que les explosions qui ont eu lieu aujourd'hui à Rome sont à mettre en relation avec celles de Milan?
Je pense que oui.
On sent toute l'émotion du témoin qui raconte ces explosions qui se sont déroulées entre 16h40 et 17h24. 3 attentats en tout, et c'est un miracle qu'il n'ait pas fait davantage de victimes, 16 blessés au total, dont 2 grièvement atteints. La première des explosions s'est déroulée entre deux immeubles de la Banca Nazionale del Lavoro, en plein centre touristique, près de la Via Veneto. L'effet de souffle de l'engin a été accru par les conditions mêmes de son explosion dans un couloir large de 2 mètres. Les deux autres bombes ont été placées sur la première terrasse du monument aux soldats inconnus, Piazza di Venezia, vous savez, cette grande machine à écrire. Elles explosent à 8 minutes d'intervalle, à 17h16 et 17h34. Le souffle s'est ressenti jusqu'à 5 ou 600 mètres. De nombreux carreaux ont volé en éclats. Cela déclenche de véritables scènes de panique et d'inquiétude en plein cœur de la capitale italienne. Le bilan de cette journée est terrible. 16 morts, 88 blessés. Au début de la nuit de vendredi à samedi, une charge supplémentaire de 10 kilos d'explosifs est retrouvée au siège de la Banca Commerciale. Mais elle est dépourvue de mèches. De toute évidence, il s'agissait d'une opération soigneusement menée, calculée pour tuer. L'officier spécialiste des explosifs l'affirme, ces engins n'ont pas pu être faits par des amateurs, ils demandaient trop de sang-froid pour être composés de la sorte. L'Italie est sous le choc. Le temps semble suspendu, le pays vient d'entrer dans des années de terreur. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir en arrière. Remonter le temps en quelque sorte. Revenir à cet automne 1969 que l'on a qualifié depuis d'automne chaud. Revenir encore en 1968 avec les événements du printemps. Revenir encore jusqu'au début des années 60 quand commence ce que l'on a appelé le mai rampant, le mai larvé, cette série de grèves qui vont plonger l'Italie dans une sorte de chaos quotidien, un ordinaire de la lutte sociale. Cela fait 10 ans, en effet, que l'Italie traverse une période paradoxale. Après les années de reconstruction, il y a eu ce miracle italien. Cette industrie et ce développement économique extrêmement rapide et puissant du pays. Mais, dans le même temps, les forces sociales se sont réveillées. Sous l'influence puissante du Parti communiste italien, la Confédération générale du travail a déclenché des mouvements de grève. Ça a commencé par exemple en juin 1962 à la Fiat, à Turin. Et depuis, cela ne s'est pas arrêté. Administration, usine, toute l'Italie semble saisie par une frénésie avec un mot qui domine, en italien lo sciopero, en français la grève. Le mouvement s'est accentué encore en 1968. Le nombre de journées de grève a augmenté considérablement. C'est aux usines Pirelli, en 1968 à Milan, qu'il y a eu le début de cette extrême gauche étonnante avec un comité unitaire de base qui commence à déborder l'action syndicale. Le parti communiste lui-même est dépassé. C'est toute une nouvelle extrême gauche qui émerge, à la fois prolétarienne et utopiste. C'est cela qui va totalement bouleverser l'Italie au long de l'année 1969 et semer le trouble dans la classe politique qui se rend compte qu'un phénomène se déroule en dehors d'elle. C'est ainsi qu'à partir du printemps 1969, des luttes éclatent dans des centaines d'usines, petites ou grandes, avec les mêmes thèmes qui reviennent. La revendication de l'égalité salariale, la lutte contre le paternalisme, l'autoritarisme, la demande d'une suspension de toute répression politique. À l'avant-garde de ces opérations, souvent de petits mouvements spontanés et quelques personnalités politiques qui lancent des mots d'ordre. Mais progressivement, une dérive se fait jour. À côté des grèves, des occupations d'usines, certains mouvements tournent à la violence. Le 3 juillet déjà, pour tenter de reprendre en main le mouvement, les syndicats avaient lancé une grève générale dans les usines de Mirafiori. La grève se transforme en bataille rangée contre la police. Une bataille qui dure plus de 10 heures et qui oppose d'un côté les travailleurs de la Fiat et de l'autre côté les policiers. Turin semble mise à feu et à sang. L'automne chaud va avoir les mêmes caractéristiques. Violence contre la police et de l'autre côté violence contre les travailleurs. Au gouvernement se trouve un parti qui domine la vie politique italienne depuis 1945. Il s'agit de la Démocratie chrétienne italienne. C'est un vaste parti avec des tendances tout à fait opposées en son sein. Il y a d'abord le cœur du parti, qui au fond essaye de promouvoir une démocratie solidaire, mais tout de même avec un fondement libéral et atlantiste. Et puis, il y a deux ailes différentes. Une aile droite, avec quelqu'un comme Giuseppe Tambroni, qui réclame une alliance éventuelle avec une droite plus radicale, voire l'extrême droite. Tambroni est prêt à s'allier avec le Movimento Sociale Italiano, le MSI, le parti issu du fascisme qui continue de vivre en Italie. Et de l'autre côté, il y a une aile gauche, dont le leader s'appelle Aldo Moro. Aldo Moro, lui, pense qu'un jour ou l'autre, il faudra peut-être en venir à un compromis historique avec l'autre grande force politique du pays, celle qui, depuis 1945, occupe plus de 20% et parfois plus de 25% du corps électoral italien, le Parti communiste. Le Parti communiste en Italie est une puissance à la fois culturelle, politique et sociale avec les syndicats qui l'entourent. Voilà le portrait de cette Italie en 1969, un gouvernement centre-droit et une extrême-gauche qui va bien au-delà de ce que veulent les communistes. Mais revenons sur le terrain social. À l'automne 1969, sous la pression syndicale, en novembre et décembre, les ouvriers obtiennent finalement des conventions collectives. On pourrait penser que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et c'est dans ce contexte qu'a lieu l'attentat du 12 décembre 1969. Une rupture a eu lieu ce jour-là. Dès le lendemain, le correspondant d'Europe 1, le samedi suivant donc, indique à quel point déjà la cité milanaise et toute l'Italie a basculé dans la terreur.
Samedi calme, trop calme à Milan. Pas de cinéma, pas de théâtre, la Scala reste fermée, les drapeaux sont en berne, les éclairages de Noël n'ont pas été allumés. Peu de monde dans les rues, quelques attroupements pourtant, les Milanais lisent des affiches encadrées de bandeaux noirs, gardées par des agents. Sur ces affiches, le maire demande à ses concitoyens de garder leur sang-froid. Sur plusieurs trottoirs, la municipalité a disposé des tables, les passants s'arrêtent et signent une pétition contre la violence. 24 heures après le drame, l'inquiétude et la crainte n'ont pas disparu sur les visages. En me rendant à la mairie, un carabinier m'a interpellé, c'est compréhensible, des tracts ont circulé, paraît-il aujourd'hui, à Rome et à Milan, des tracts sur lesquels était écrit « Capitaliste, attention, ça n'est qu'un début ».
Milan n'est pas une ville endormie dès le samedi 13 décembre. Il continue d'y avoir dans la ville les policiers à la recherche de nouveaux attentats éventuels, les policiers et les pompiers qui essayent encore de dégager une partie des gravats autour de la Banque nationale de l'agriculture, Piazza Fontana. Bien sûr, les partis politiques ont tous réagi et condamné cet attentat qui a été qualifié par le président de la République de bestial. Le président du Conseil, le démocrate chrétien Mariano Rumor, lui a parlé d'une monstrueuse énormité et d'une bestiale inconscience. Au fond, tout le monde essaye de donner du sens à l'attentat qui vient de se passer. Autour de la Piazza Fontana, il y a d'ailleurs des rassemblements spontanés. Des disputes éclatent. Certains accusent les communistes. Ils demandent la mise en place d'une nouvelle organisation qui puisse résister à cette subversion qui veut détruire la Grande Italie. En réalité, on ne sait pas exactement qui est l'auteur de l'attentat, mais des tracts ont commencé à circuler. Des revendications anticapitalistes, dit-on. Et si les responsables étaient les maoïstes ou les anarchistes? Alors que l'on aurait pu penser observer une journée de calme, de deuil, aux abords de la Piazza Fontana, écoutez l'atmosphère qu'a capté le journaliste d'Europe 1. Tout est tension, violence, combat et affirmation sans fin.
Il y a des jeunes qui portent des pancartes, qui les lancent sur d'autres. Je pense que c'est des jeunes de gauche et de droite qui se battent. Les fascistes applaudissent la police. Les gens se disputent entre eux, d'autres essayent de calmer la foule. Pourquoi vous êtes venu là, monsieur? Pour manipester?
Non, c'est pas pour manifester. C'est très grave, je veux dire. Enfin, jusqu'à maintenant, il y a eu quelques petites démonstrations comme ça, bien sûr, des grèves. Mais j'ai l'impression qu'il y a des forces politiques qui veulent un peu semer la panique dans l'Italie.
C'est une ambiance un peu comme avant. Oui. La venue de Mussolini alors.
Enfin, tout au moins, moi, ça me donne cette impression-là. Et il y a cette atmosphère, on a peur de parler, même si on dit n'importe quoi.
Qui sont les responsables des attentats? Dans quelle direction faut-il orienter l'enquête? C'est toute la question que se posent les forces de police, mais évidemment, elles sont à l'unisson de l'opinion publique. Un ensemble d'indices a été relevé à Rome. Ils emportent la conviction d'une bonne partie des milieux politiques que c'est à l'extrême droite que se trouvent les responsables. L'explication est simple. Au moment où les bombes ont explosé, on a vu dans les rues de Rome un certain nombre d'agitateurs politiques distribuer des tracts, appelant à rétablir l'ordre, demandant l'intervention des forces armées, et même par haut-parleur. Certains ont crié des slogans contre les rouges et contre le terrorisme. Via Del Corso même, il y avait un tract qui disait que c'était désormais le rendez-vous de la nation qui devait avoir lieu dimanche matin au Palais des Sports à Rome. Quel événement doit avoir lieu ce dimanche matin au Palais des Sports à Rome qui ait été anticipé avant même les attentats? C'est un meeting. Un meeting d'une figure qui n'est pas anodine. Il s'agit de Giorgio Almirante. Almirante est le patron du Movimento Sociale Italiano, du MSI. Il est le chef de la nouvelle extrême droite néo-fasciste. C'est son organisation qui appelle désormais à une marche sur Rome pour remettre le pays en ordre. Et si le MSI était derrière les attentats? C'est du moins l'analyse du Parti communiste dont un des représentants s'exprime en français au micro d'Europe 1.
L'état de malaise et d'insatisfaction qui existe en Italie, à mon avis, n'a aucune connexion avec les actes de violence et à mon encore avec les attentats terroristes de Milan et de Rome. Non seulement nous excludons toute relation entre les luttes sociales et syndicales avec cet acte néfaste, qui soit que provient des provocateurs fascistes, chose que nous retenons comme très probable, ou bien d'extrémistes foules.
Toute la presse italienne y va de sa conjecture. Certains prétendent que des terroristes ont été arrêtés, d'autres qu'on est encore au balbutiement de l'enquête. Le ministère de l'Intérieur italien, d'ailleurs, a lancé une prime de 50 millions de lire à qui pourra fournir des indications pour identifier les meurtriers. Pendant que tout le monde s'agite, à Milan, on prépare les funérailles et l'hommage aux morts.
Lundi à 11h du matin, les 14 victimes seront enterrées ensemble. Obsèques grandioses, le cardinal célébrera la cérémonie dans le dôme, la cathédrale de Milan. Ensuite, la municipalité organisera un défilé dans la ville. Tous les partis, des gauchistes aux fascistes, y participeront. Chacun sera là avec sa gerbe de fleurs et ses drapeaux. Espérons que tout cela n'entraînera pas de nouveaux heurts. C'est un risque à courir, m'a dit l'un des conseillers municipaux. Mais vis-à-vis de ces 14 innocents, nous devons montrer un peu de courage.
Difficile d'enterrer ses morts dans un tel contexte de tension. Les enquêteurs aussi travaillent sous tension. Très rapidement, ils commencent à orienter leurs investigations vers les milieux de l'extrême-gauche informelle. Un chauffeur de taxi a été interrogé et il a reconnu un anarchiste connu par les forces de police, Pietro Valpreda. Il est d'ailleurs interpellé et très rapidement, la police le présente comme un des responsables des attentats du 12 décembre 1969. Ça, c'est pour Rome. Mais à Milan, la police, elle aussi, a enquêté vers les milieux communistes, marxistes-léninistes. Et puis, il y a eu une arrestation d'un anarchiste individualiste, dit-on, un homme de 41 ans, qui s'appelle Giuseppe Pinelli. Pinelli, arrêté, détenu à la préfecture de police, s'est jeté du 4e étage de la fenêtre. Il est tombé, il devait être interrogé. Il est mort à l'hôpital. Cet anarchiste était donc fortement soupçonné par le questeur, l'enquêteur de Milan, d'être le responsable des attentats de Milan. Son suicide va être considéré par les autorités comme un acte, je cite, d'auto-accusation. Le jour même, La presse annonce l'arrestation de Valpreda, le monstre à visage humain, dit-on, et la mort de ce cheminot libertaire qu'était Giuseppe Pinelli. Au fond, tout semble se résoudre de la manière la plus simple. Ce seraient les anarchistes d'extrême gauche qui auraient voulu semer la terreur contre le capitalisme bancaire. L'accusation policière a été si forte, si massive, menée tellement rapidement que personne n'ose la contredire. Il faut attendre 1972 pour qu'enfin des proches de Valpreda dénoncent cette fausse accusation et qu'ils le fassent même sous le regard de la presse internationale et au micro d'Europe 1, bien sûr.
Vous connaissez Pietro Valpreda?
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire un attentat, Valpreda?
Il ne s'agit pas d'un attentat anarchiste.
Votre organisation n'a pas fait ça?
Pas notre.
C'est pas possible?
Pas possible.
Et pourtant, on vous accuse?
Oui, et c'est une provocation à la gauche, en général.
En fait, les poursuites contre les anarchistes ne sont pas les seules. Dès 1972, un nouveau juge, Giancarlo Stiz, commence à enquêter sur deux groupuscules d'extrême droite, Ordine Nuovo et Avanguardia Nazionale. C'est dans ces milieux qu'il réussit à repérer et à mettre en examen Giovanni Ventura et Franco Freda, deux hommes issus de ces mouvances qui sont vraisemblablement les auteurs de l'attentat de la Piazza Fontana. Valpreda va se retrouver, lui l'anarchiste, à partager le banc des accusés avec les deux hommes de l'extrême droite. S'ensuivra un incroyable imbroglio judiciaire. Procès, accusation, remise, appel, condamnés à la prison à vie pour l'attentat de la Piazza Fontana, Freda et Ventura sont acquittés en 1981 et il faudra attendre 1986 pour que Valpreda soit enfin reconnu innocent. En 2001, on agitera trois autres fascistes à cet attentat comme responsables des faits, Dezo Zorzi, Carlo Maria Maggi et Giancarlo Rognoni. Bref, c'est seulement au début du XXIe siècle que l'on a pu reconstituer tout ce qui s'est exactement passé, ce que l'on a appelé la stratégie de la tension. En sous-main, ce sont les hommes des réseaux secrets de relations avec la CIA, le réseau Gladio, qui ont décidé de commettre des attentats afin de faire croire que les communistes étaient aux portes du pouvoir. Le but était d'ainsi d'obtenir la mise en place d'un régime autoritaire en Italie, luttant sans merci contre toutes les forces subversives. Mais cette stratégie de la tension est allée au-delà de ce que pensaient les auteurs de l'attentat. Elle a déclenché une forme de libération et de radicalisation à l'extrême gauche. Ceux qui jusqu'à présent s'étaient contentés de faire de simples actes d'occupation d'usines, des manifestations, certes, avec des conflits contre les policiers, ont jugé qu'à leur tour, ils pouvaient utiliser les bombes, les enlèvements et les coups de feu contre ceux qu'ils considéraient comme les ennemis de la classe ouvrière. La stratégie de la tension a donc débouché sur une sorte de paradoxe. Une guerre civile à distance entre l'extrême droite et l'extrême gauche, alors qu'au milieu, les forces du gouvernement italien et même le Parti communiste essayaient de maintenir le pays la tête au-dessus de l'eau. C'est ainsi que les Brigades Rouges vont finir par s'en prendre à celui qui voulait faire le pont entre la démocratie chrétienne et le Parti communiste, Aldo Moro, qui fera l'objet d'un enlèvement, d'une séquestration et d'une exécution en 1978. Le contexte des années de plomb est celui-là. Évidemment, il n'y avait pas de dictature violente en Italie, comme l'ont affirmé certains membres de l'extrême gauche. Mais il y avait un climat étonnant de conflits et de provocations réciproques entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Si l'Italie a pu échapper à cet engrenage fatal de radicalisation, de passage à l'acte, de violence terroriste, c'est grâce à un homme. Un policier, ou plutôt un carabinieri, le général des carabiniers Carlo Alberto della Chiesa. Il a été immortalisé à l'écran par Lino Ventura, mais dans les faits, c'est bien lui qui a mené la lutte antiterroriste. effectuant des infiltrations, utilisant des renseignements qui ont permis de démanteler les organisations clandestines. Et évidemment, il a fallu renforcer l'arsenal pénal pour mener cette lutte à bien. La démocratie chrétienne et le Parti communiste, au fond, sont sortis vainqueurs de cette lutte multidécennale. Mais tout a été changé à partir du moment où, 20 ans plus tard, en 1989, le mur de Berlin s'est effondré. Désormais, les vieux combats, les vieux démons de l'époque de la guerre froide ont paru totalement ridicules. À cette époque, Cesare Battisti s'était déjà installé en France. C'était le début d'une longue cavale qui allait se terminer par son arrestation. Mais l'autre leçon du 12 décembre 1969, c'est qu'il y a dans la violence des effets de cliquet. Une fois qu'un seuil a été franchi, il est extrêmement difficile de revenir en arrière et il faut un temps long pour s'en sortir. Cette leçon-là doit être méditée à l'heure où la France a connu des épisodes de violence. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Ce podcast est une création Europe 1 Studio, présenté par Fabrice Dalméda. Il a été préparé par Simon Maisonneuve, réalisé par Christophe Daviau. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.